Retrouvez Brume, la radio campus de Lyon, lors de la nuit des chercheurs ce vendredi 26 septembre. Au Planétarium de Vaux-en-Velin. Studio radio in situ pour couvrir la nuit des chercheurs, l'événement qui inaugure cette année l'édition 2014 de la Fête de la Science. Soirée spéciale à la rencontre des acteurs de la science, des chercheurs, votre Radio Campus s'offre un moment ludique de découverte parmi le public et plonge dans le monde passionnant de la recherche d'aujourd'hui.
Archimedeskracht.
Newton Aschapjas.
We vliegen. Afgeven.
La nuit des chercheurs, c'est une autre expérience. Vivez-la, le 26 septembre.
Brume a couvert pour vous la nuit des chercheurs, qui se déroulait le vendredi 26 septembre au Planétarium de Vaux-en-Velin.
Vous êtes sur Brume pour la nuit des chercheurs et j'ai avec moi Dominique, un chercheur. Dis-moi Dominique, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?
Je fais de la recherche pour permettre aux robots de percevoir et de comprendre ce qui se passe autour de lui. Donc on utilise... pour ça, soit des Kinect, soit des caméras, soit des microphones, soit des télémètres lasers. Donc c'est des lasers qui tournent et qui nous permettent de voir à 30 mètres autour du robot.
Donc en fait, le but, c'est de lui faire comprendre son environnement extérieur pour qu'il puisse interagir avec.
Voilà, l'idée, c'est... Jusque-là, on a beaucoup travaillé sur faire comprendre l'espace au robot, qu'il puisse se déplacer à l'intérieur de l'espace. Et là, on essaye de lui faire comprendre ce qui se passe dans l'espace. Donc, est-ce qu'il y a des humains? Est-ce que les humains sont en train d'interagir entre eux? Donc, est-ce que je peux passer au milieu des humains ou pas, par exemple? Ou est-ce qu'il y a un humain qui est en train de s'approcher de moi pour interagir avec moi? Ou est-ce qu'il y a un humain que je dois éviter pour passer, etc.
Ça me rappelle un peu la vision infrarouge de Robocop ou ce genre de robot. Mais c'est vrai que c'est un peu ces outils-là en fait, qui sont utilisés. J'imagine que l'infrarouge, c'est un outil important pour détecter les mouvements.
Alors la Kinect utilise l'infrarouge pour détecter les personnes. Avec ça, elle peut nous permettre de reconstruire le squelette des personnes. Après, on les écoute. Le télémètre laser, c'est un laser qui n'est pas visible. Donc c'est aussi dans ce domaine d'informations-là. Et on utilise beaucoup ces informations-là, oui. Donc voilà, dans mes recherches, dans les recherches auxquelles je participe, on adresse principalement des robots compagnons qui sont destinés à faire du maintien de personnes âgées à domicile. Donc l'idée, c'est d'arriver à garder les gens en leur apportant une assistance le plus longtemps possible chez elles. Parce que quand les personnes restent chez elles, elles sont en meilleure santé que si on les déracine. Bon, après, il arrive un moment où on est obligé et que le robot ne suffira pas. Et on a aussi d'autres équipes autour de nous qui travaillent sur des recherches, par exemple sur des chaises roulantes pour personnes handicapées qui font de l'assistance au déplacement. Donc par exemple, elles se déplacent toutes seules dans les couloirs ou elles font des mouvements parfaits pour prendre des portes en détectant automatiquement les portes et en faisant le calcul des portes tout en évitant les autres personnes qui sont autour, etc.
Ça permet de faciliter réellement la vie des personnes en fait.
Ça facilite pour les gens qui ont la possibilité de conduire, ça les aide à la conduite. Dans ce cas-là, le robot ne fait que corriger les petites erreurs qui pourraient être commises. Ça leur laisse une autonomie. Et pour des gens qui ont moins de mobilité, ça leur permet d'utiliser cet outil-là, alors que jusque-là, ils ne pouvaient pas l'utiliser. Et pour les personnes âgées, ça leur apporte plein de fonctionnalités qui leur permettront donc d'avoir un suivi sur la vie. On fait un peu de mesure de l'état de fragilité des personnes. Donc on regarde à quelle vitesse elles marchent, quelle est la longueur de leurs pas. On fait de la prise de pulsation cardiaque à distance. On fait des choses comme ça qui nous permettent d'avoir pas un avis médical, mais on peut un suivi. On peut voir que par exemple la personne elle se déplace moins vite. Et là le robot peut lever une alerte, ce qui mettra un médecin dans la boucle. Mais le robot ne fait pas de décision médicale, mais peut relever un indice qui a varié. Elle se lève plus tard, elle se lève à midi, elle mange la nuit. Pour des gens qui ont des débuts d'Alzheimer, par exemple, le décalage et le déphasage temporel, c'est un indice important d'aggravation des symptômes.
Donc là, c'est un exemple tout simple où on voit que la science est vraiment au service de la société. On peut le dire de cette façon ?
Alors oui, c'est au service de la société, c'est pour moi, c'est au service aussi des personnes qui sont autour de ces malades-là. Parce que les aidants, comme on les appelle, c'est une tâche énorme de s'occuper de quelqu'un qui est une personne âgée dont l'état de santé se fragilise. Et le robot leur apporte à la fois une sécurité parce qu'ils savent qu'il y a un suivi, ils savent qu'il y a des détections d'alerte, ils savent que s'il y a un problème, tous les problèmes ne seront pas traités, mais ça va en traiter certains. Donc ça les sécurise et ça allège un peu leur fardeau, qui est parfois difficile à porter quand on a des personnes à s'occuper qui ont des débuts d'Alzheimer ou d'autres problèmes de ce genre-là.
Est-ce que c'est très diffusé actuellement dans la société ou c'en est encore assez balbutiement ?
Alors là, on commence à avoir un intérêt des mutuelles. Donc là, l'intérêt est financier, il ne faut pas se cacher la face. L'idée, c'est qu'un robot comme ça, ça vaut 15 000 euros. Et que si ça peut permettre aux gens de rester en meilleure santé chez elles pendant plus longtemps, la mutuelle a tout intérêt à investir dans ce genre de système-là. Donc d'un côté, les aidants, les personnes sont en bonne santé plus longtemps, les aidants ont leur fardeau qui est allégé, et il y a un coût financier pour la société qui devrait pouvoir être allégé, donc on espère être gagnant sur tous les points. Mais les études qu'on a menées en 2013 prévoient un développement du marché dans 8 à 10 ans.
Brume défriche pour vous l'actualité culturelle. Tout de suite, les magazines.
C'est une petite conférence de 30 minutes sur est-ce que le changement climatique aura un impact ou non sur les langues du monde, les langues qui sont parlées sur la Terre aujourd'hui. Et donc voilà, j'ai développé quelques petites études, quelques petits exemples pour expliquer que oui, le dérèglement climatique, le risque écologique ou la végétation, ça pouvait avoir un impact, un effet sur les langues, que ce soit dans la complexité syntaxique de la langue, les règles de grammaire de la langue ou dans les sons qu'elle utilise pour composer ses mots, ou encore sur la diversité des langues dans une région donnée. Est-ce qu'on a plus ou moins de langues dans un coin du monde ? Un premier exemple dont j'ai parlé pendant la conf, c'est de montrer qu'il y a un lien entre la densité de végétation dans une région et le nombre de consonnes qu'il y a dans une langue. Donc quand on compare un grand nombre de langues avec ces éléments-là, on se rend compte, alors c'est une tendance, c'est pas quelque chose d'absolument strict, que plus une langue est parlée dans une région où il y a beaucoup de végétation, moins elle a tendance à avoir de consonnes. Voilà, c'est un effet un peu curieux, mais on l'observe.
Brume défriche pour vous l'actualité culturelle. Tout de suite, les magazines.
Vous êtes toujours au Planétarium de Vau-en-Velin pour la nuit des chercheurs et j'ai avec moi deux chercheurs, Grégoire et Marwin. Grégoire, Marwin, présentez-vous un petit peu.
Alors moi, je m'appelle Grégoire, je suis doctorant à l'INSERM à Bron, donc plutôt le côté sciences cognitives et presque psychologie cognitive. Donc en gros, c'est adapter des comportements humains et les remettre, qu'on retrouve chez l'enfant, le développement, en particulier le langage et la mémoire, et essayer de les remettre chez le robot.
Bonjour, donc moi c'est Marvin, donc je suis ingénieur à l'INSERM et je travaille sur je mets en place des outils qui permettront aux chercheurs justement de pouvoir faire tous les essais qu'ils souhaitent faire, toutes les manipulations qu'ils souhaitent faire.
Donc vous travaillez avec un robot en particulier, est-ce que vous pouvez m'en parler ?
Alors là on est venu sur le stand de la nuit des chercheurs avec le NAO, qui est un petit robot développé donc en France par la société Albaran. Donc petit, assez mignon, mais il se trouve que nous, dans notre laboratoire, on travaille avec un autre robot qui s'appelle Lycub et qui lui est développé en Italie par l'IIT et qui a un robot beaucoup beaucoup plus complexe avec beaucoup plus de différences. Mais au final, vu qu'on travaille nous plus en partie intelligence artificielle entre guillemets, les phénomènes de mémoire et de langage puis pourront marcher ou d'imitation pourront marcher quel que soit le robot en théorie. Donc voilà, là c'était plus simple pour nous d'amener le NAO, puis il a un contact plus facile en plus avec les gens. Et voilà.
Donc là l'idée c'est de montrer qu'il est capable d'apprendre des gestes qu'on va lui montrer de manière différente, donc soit par la Kinect, donc par une vision externe on va dire, ou soit par la proprioception qui est en fait, on va bouger nous-mêmes les membres du robot de manière à ce qu'ils comprennent dans quelle position on veut les mener. Et voilà, c'est deux manières pour apprendre des choses à ce robot. Et tous ces apprentissages vont être retenus par le robot, ils vont être assimilés à ce qu'on appelle un petit label, à un terme en fait. Et à n'importe quel moment, on va pouvoir lui donner ce terme et il va rejouer ce qu'il a appris auparavant.
Donc en fait, ce robot a une mémoire, une vraie mémoire.
On peut dire que ce robot a une sorte de mémoire, un début de mémoire en tout cas.
Est-ce que le but, c'est de le rendre le plus semblable à l'être humain, au final?
Alors, je ne sais pas si on peut dire semblable, parce qu'on a encore des milliers d'années d'être à un robot semblable à l'homme, mais en tout cas, d'essayer de se rapprocher. en tout cas dans le fondement des processus cognitifs qu'on peut trouver chez l'homme, et d'essayer de ça, de se rapprocher le plus possible chez le robot, de s'en approcher chez le robot. C'est-à-dire, on va utiliser ce qu'on appelle des réseaux de neurones artificiels qui sont très loin des réseaux de neurones biologiques que l'homme utilise dans le cerveau, mais qui vont essayer de se rapprocher un peu de ce qui se passe, et même cognitivement, on va essayer de regarder comment l'enfant se développe, comment ça se développe chez l'homme, tout ça, et de s'en rapprocher. On essaie de s'en rapprocher davantage sur le fond que sur la forme, et une fois que le fond aura assez émergé, on le verra sur la forme. Mais voilà, on n'a pas la prétention de dire qu'on remplace ou qu'on est proche de l'humain, on
garde... Dans les robots, en fait, c'est juste un robot. Et en termes d'usage, quels usages vous envisagez, en fait, pour ces robots ?
En fait, il peut y avoir des usages qui sont plus grand public ou personnel, que ce soit dans des maisons de retraite ou des choses comme ça. On veut pas forcément juste un robot qui fasse ce qu'on lui a dit, mais qui comprenne ce qu'il fasse. C'est-à-dire que si jamais un jour, y a une personne âgée qui décide de changer ses habitudes, que le robot il s'y adapte, qu'il fasse pas ce qu'il fait d'habitude, programmé de A à Z. Et donc ça va venir à travers le langage, à travers l'apprentissage, les choses comme ça. Donc ça peut être pour de l'interaction vraiment... avec les hommes, et aussi dans l'industrie, on peut imaginer des robots qui ne soient pas du tout humanoïdes, donc des bras articulés, des choses comme ça, et qu'on puisse reprogrammer beaucoup plus facilement juste par la parole, qu'on n'ait pas besoin de formation spécialisée en informatique, juste d'expliquer, là, il faut que tu fasses ça, je vais te montrer comme ça, et de parler un bras articulé comme on parlerait un humain, et d'avoir à peu près le même répondant de la part du robot.
Donc en fait, l'interface entre l'homme et la machine serait simplifiée.
En tout cas, qu'elle soit plus calquée sur celle de l'homme. Entre guillemets, elle est très simplifiée maintenant, c'est des 0 et des 1. Donc c'est plus adapté à l'homme que simplifié réellement.
La nuit des chercheurs n'est pas terminée. On se retrouve un peu plus tard sur Brume, Radio Campus Lyon.
Brume défriche pour vous l'actualité culturelle. Tout de suite, les magazines.
Brume 90.7, nous nous retrouvons pour la nuit des chercheurs depuis le planétarium de Vaux-en-Velin pour aller à la rencontre des chercheurs, recevoir des acteurs des sciences dans notre studio. Nous retrouvons maintenant Marie-Pierre Gibert, qui est anthropologue et vient de participer à un projet assez rigolo qui est là ce soir aussi. C'est du coup le scientific dating, un peu une sorte de speed dating, mais
avec
sur des rencontres scientifiques.
Tout à fait.
Déjà, tu peux nous parler un petit peu de ce projet, déjà,
Alors le principe,
atelier, en tout cas.
Ouais. Le principe, c'est effectivement que 5 chercheurs s'assoient sur une petite table, à des tables différentes, et puis il y a des gens du public qui viennent pour 5 minutes. Donc ils ont 5 minutes pour eux tout seuls, un chercheur, à qui ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent. Donc qu'est-ce que ça veut dire que chercher? Qu'est-ce qu'on cherche? À quoi ça sert? Mais aussi éventuellement, qu'est-ce que c'est que le travail de chercheur? Est-ce qu'on mange pareil que les autres, est-ce qu'on dort pareil que les autres, etc., etc. Donc c'est
alors,
ça.
Alors toi, du coup, tu fais de la recherche plutôt en anthropologie et tu es professeur à Lyon 2.
Tout à fait. Moi, je suis ce qu'on appelle un enseignant-chercheur, c'est-à-dire à la fois enseignant et chercheur. Donc il faut jongler avec ces deux choses-là. Et je suis effectivement enseignante à Lyon 2 dans le département d'anthropologie.
Et alors, tes domaines de recherche, du coup ?
Alors, mes domaines de recherche, c'est anthropologie de la danse et de la musique, anthropologie des mobilités, migration, diaspora, toutes ces choses-là.
Dans un continent en particulier ou
Essentiellement dans le Moyen-Orient et puis en Europe, on va dire, plus largement, parce que j'ai travaillé aussi au Royaume-Uni, en France, un petit peu en Allemagne.
D'accord. Et alors, du coup, est-ce que c'est important aussi, en tant qu'anthropologue, de venir justement à un événement comme celui-là qui englobe quand même pas mal de gens qui viennent plus des sciences physiques ou de la recherche purement scientifique plutôt que des sciences humaines ?
Ouais, c'est important et pour ça et pour d'autres choses. Je pense que d'une part, de manière générale, c'est très peu connu ce que peut être l'anthropologie ou même les sciences humaines et sociales et à quel point elles peuvent être utiles pour comprendre le monde qui nous entoure et qu'on n'a pas forcément besoin de devenir grand chercheur pour que l'anthropologie soit intéressante. Donc je pense que c'est toujours bien de pouvoir la remettre un peu à un niveau autre qu'au fin fond des amphithéâtres de l'université. Et puis après, effectivement, c'est vrai que souvent, quand on pense à la science, on pense plutôt aux sciences physiques, aux sciences dites dures. et on ne pense pas forcément à ces sciences humaines et sociales.
Et alors, pour en revenir un petit peu justement à Scientific Dating, comment ça s'est passé pour toi en tout cas? Du coup, les gens, ils viennent, ils posent à peu près tous les mêmes questions ou ça n'a rien à voir? Tu t'exprimes de la même manière? Enfin, comment c'est un petit peu?
C'est vrai, c'est marrant parce qu'effectivement, c'est absolument pas la même chose. Il y a ça tourne 5 fois, hein, donc on a 5 personnes différentes ou 5 groupes de personnes, puisque à chaque fois, là, c'était au moins 2 personnes et parfois plus. Ça dépend vraiment d'abord de leurs âges, puisqu'il y a eu un groupe avec 4 enfants. Donc là, effectivement, je ne me suis pas exprimée tout à fait de la même manière. Et puis, je me suis amusée à les faire deviner ce sur quoi je cherchais, ce sur quoi je travaillais. J'ai essayé de trouver des exemples qui leur parlent et qui soient plus près de ce qu'ils font eux, etc. Et puis, il y a des gens qui viennent et qui ont une idée de ce que peut être l'anthropologie et qui essayent de confronter un peu ça ou de discuter de points très précis qu'ils ont lus dans des livres. Et puis d'autres fois, des gens qui ne savent pas du tout, ce qui est évident, parce que c'est quand même un gros mot, qu'on ne sait pas forcément ce que c'est. Moi, j'ai appris ça quand je suis arrivée en première année d'anthropologie. Je n'avais jamais entendu ça de ma vie avant. Donc c'est vraiment très, très différent la manière dont les gens s'approprient effectivement ce petit espace et ces 5 minutes qu'on a à passer ensemble. Donc des fois, ça passe très vite et puis des fois, ça passe plus lentement parce qu'ils ne savent pas trop quoi poser comme question. Puis d'autres fois, ils en ont plein, donc il faut aller vite.
Et alors toi, du coup, dernière petite question un peu, comment il y a des projets un petit peu dans les temps qui arrivent de voyage ou de recherche autour de tous ces thèmes, danse au Moyen-Orient ou ailleurs?
Ouais, alors j'ai plein de projets, donc je ne vais pas tous les dérouler, mais en ce moment, par exemple, il y a un projet très proche d'ici, c'est que je travaille beaucoup avec un chorégraphe contemporain, un chorégraphe de danse, donc contemporain, qui est Yuval Pick, qui travaille au Centre chorégraphique national à Rieux-la-Pape, et donc on travaille beaucoup ensemble, et je suis son travail de création. Donc je vais tous les jours, ou ça dépend des fois, ou une fois par semaine.
Faire de la recherche vraiment
Faire de la recherche, voilà, sur la manière dont va travailler un créateur de danse. Et puis ensuite, on en discute ensemble, on écrit. Là, on voudrait écrire un article ensemble. Et puis des fois, je présente son travail à la Biennale de la Danse ou des choses comme ça. Donc ça, c'est un des multiples projets que j'ai. Voilà.
D'accord. Et bien, écoute, merci beaucoup.
Avec plaisir. Bonne soirée.
Brume défriche pour vous l'actualité culturelle. Tout de suite, les magazines.
Brume a couvert pour vous la Nuit des chercheurs qui se déroulait le vendredi 26 septembre au Planétarium de Vaux-en-Velin.
On se retrouve maintenant avec Salim qui lui est plutôt de l'autre côté de la barrière côté organisation de cet événement. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe pour toi ce soir?
C'est assez particulier comme organisation, c'est la première fois que je fais quelque chose de cette envergure. Donc je suis assez content de tout ce qu'on a fait, du monde qu'on a vu ce soir et... Je suis assez content.
Et alors toi, tu viens plutôt du domaine de l'événementiel, de l'organisation, ou plutôt du domaine scientifique un peu?
J'ai fait une licence scientifique, donc je connais un peu le monde scientifique. Et c'est la première fois que je me lance dans ce monde de la diffusion des sciences, la communication scientifique. C'est la première fois que je me lance et je suis content du résultat.
Et ouais, les gens, du coup, dernière petite question, après on va te laisser retourner travailler, mais ils ont l'air plutôt contents de passer comme ça dans différentes conférences, différents ateliers.
Oui, les gens qu'on rencontre, ils sont contents, ils veulent assister à tout. Certains ateliers, comme vous dites, sont assez limités, et du coup, au niveau des retours des gens, on sent qu'ils sont un peu... C'est un peu triste de ne pas avoir pu assister à tel atelier parce que ça a été limité. Mais ça, on ne pouvait pas faire...
C'est le jeu.
C'est le jeu, voilà.
Ok, écoute, merci bien en tout cas.
De rien.
On se retrouve plus tard pour la suite de la Nuit des chercheurs sur Brume, Radio Campus Lyon.
Retrouvez Brume, la Radio Campus de Lyon, lors de la Nuit des chercheurs ce vendredi 26 septembre. Au Planétarium de Vaux-en-Velin. Studio Radio, in situ, pour couvrir la Nuit des chercheurs, l'événement qui inaugure cette année l'édition 2014 de la Fête de la Science. Soirée spéciale à la rencontre des acteurs de la science, des chercheurs, votre Radio Campus s'offre un moment ludique de découverte parmi le public et plonge dans le monde passionnant de la recherche d'aujourd'hui.
Archimedeskracht.
Newton Asclepius.
We vliegen. We vliegen.
nuit des chercheurs, c'est une autre expérience. Vivez-la le 26 septembre.